Bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. En ce début de semaine, nous avons le plaisir, l'extrême chance d'être avec Jamachtou qui commence à en avoir marre du beurrage de tartine.
Ah non,
bonjour Jamachtou.
Bonjour, je préfère plutôt que de dire tiens, attention, il va nous raconter des horreurs, des monstruosités.
Non, ça fait plaisir. Il n'empêche qu'il va quand même nous raconter des horreurs, mais bon,
non,
on l'aime comme ça.
Je suis impertinent, ce n'est pas la même chose. Arrête.
Alors Jamin, en fait, oui. En première partie, on va recevoir quelqu'un que tu connais, qui est une comédienne qui s'appelle Émilie Sigouin et qui est n'a pas quitté la comédie, mais qui verse dans la réalisation, et on va parler avec elle de son métier.
Oui.
D'accord, et de tout ce qu'elle sait faire, puisque j'ai vu en regardant...
Tout ce qu'elle sait faire artistiquement.
Tout ce qu'elle sait faire artistiquement. Artistiquement, oui, c'est mieux comme ça, on va le dire comme ça. Donc, on va partir en musique avec Mégane Lebel, qui nous chante « La calmie ».
Te souviens-tu du temps où il n'y avait pas de cachette, où on chantait si souvent au bord du feu dans le bout de facette, soir qu'on s'est promené dans les rues de Montebello et qu'on s'est arrêté pour prendre des photos au château, et tu m'as prise dans tes bras. Le temps s'est arrêté pour une fois, j'avais jamais pensé que l'éclair allait me frapper. Puis maintenant que le tonnerre gronde, toi tu voudrais que tout m'inonde. Mais moi je danse sous la pluie, heureuse les larmes endormies. C'était tellement plus simple avant.
Ah bah, on du coup,
alors, comme annoncé en début d'émission, eh bien, on se retrouve avec Émilie Sigouin. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Alors Émilie, d'abord, un grand plaisir de te recevoir, que tu nous parles de ton métier de comédienne et de réalisatrice. Mais alors, il y a une chose chez toi qui me gêne un peu, c'est que tu es vraiment amie un peu avec n'importe qui. Paraît que tu connais bien Jamin.
Mais Jamin, c'est pas n'importe qui, en fait.
Ah, ça me désole.
Merci, Émilie, merci. Je me sens moins seule.
C'est là où elle me dit, eh ben, puisque c'est ça, je raccroche. Au revoir. Ah, mince. Non, commençons. Alors, Émilie, je voudrais entendre de ton côté à toi, comment vous vous êtes connue?
Ben, en fait, c'est à la Comédie de Montréal. Je pense qu'on s'est rencontrés par l'entremise d'un autre collègue comédien, metteur en scène. Puis, je pense qu'on a commencé à faire des pièces ensemble, Jamin et moi. J'ai joué dans deux pièces avec Jamin.
Oui.
C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, voilà, il me confirme. C'est deux pièces.
Exactement. C'était se rencontrer sur Les Pirates, où elle était comédienne et dans les lectures. Et puis, je trouvais son jeu et le physique qui correspondait. Et puis, je lui ai proposé. Et puis, elle est rentrée dans cette folie qu'elle a regretté après, mais elle y
est rentrée. Tu me rassures. Bon, bah quand même, elle est à... quand même. Tout n'est pas perdu chez chez Émilie.
Merci.
Alors, Émilie, parlons un petit peu plus sérieusement de ton métier. Donc, tu es d'abord comédienne, et puis t'en es venue à la réalisation du court-métrage, c'est ça?
Mm-hmm. Oui, c'est ça. Mais en fait, j'ai tout un parcours de création, en fait, avant même d'être comédienne. Dans le fond, oui. C'est sûr que quand j'étais plus jeune, bon, on s'entend, à 11 ans, là, je voulais être comédienne, je voulais jouer au TNM. Tout, ça, on a tous un peu ces rêves de grandeur.
Attends, c'est pas fini.
C'est pas fini, en effet. c'est ça. En fait, j'ai fait mes études en arts visuels et médiatiques, tout mon trajet, cégep, okay. Université, tout ça. Puis, je suis arrivée pas nécessairement tard comme comédienne, mais disons que ça a été comme à la fin de mon parcours académique. Ben là, je suis rentrée au Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Ouais.
Alors, j'ai lu que aussi, tu avais été mime.
Oui, oui.
C'est extraordinaire parce que c'est particulier d'être mime. Enfin, pour moi, je trouve ça très particulier.
Mm-hmm. Ben ça aussi, ça c'est une formation qui m'a beaucoup marquée. Puis régulièrement, j'y retourne à Omnibus. Ça, dans le fond, c'est le mime d'Étienne Decroux. Donc, c'est vraiment, c'est une super conception du corps. C'est une super formation. Moi, je trouve comme acteur, moi, je trouve ça essentiel. Je veux dire, comment je peux dire,
ça t'a aidé dans ton métier de comédienne?
Oui, oui, c'est ça, mais autant pour jouer que pour créer, c'est les deux, en fait. Parce qu'à Omnibus, on interprète, on improvise, mais on crée beaucoup, puis on dirait que cette conception-là, je l'ai amenée partout, là, même en réalisation, il y a du mime aussi là, dans mes films, là, tu sais. Ouais, c'est partout.
Alors, quand tu es décrite comme une véritable touche à tout, quelle corde tu as encore à ton arc?
Ben, c'est sûr que quand j'étais tout petite, j'ai fait de la musique. J'ai été en contact avec la musique très tôt, dans le fond, vers 7-8 ans. Puis je me souviens que j'avais comme une passion pour le piano, pour la musique classique qui est vraiment restée aussi beaucoup dans mon parcours. Puis c'est ça, donc j'ai joué de la musique pendant très longtemps, les arts visuels, le jeu, maintenant, ben j'ai fait de la mise en scène aussi.
C'est aussi sensationnel. Enfin, je dis ça parce que j'aime ça moi au théâtre.
Tout à fait, elle peint aussi.
Ah, elle peint aussi?
Oui.
Ah, dis donc.
Beaucoup de renards.
Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, oui. Mais ça rentre dans ma formation d'art visuel. Là.
Tout à fait, parce qu'elle a eu des tableaux qui ont été exposés, tu sais, dans notre hall d'entrée, tout ça, on fait des partages, il y a des tableaux qui sont exposés, et elle a exposé pendant plus d'une année certains de ces tableaux. Mm-hmm. Je pense qu'elle en a vendu un, et elle a failli en vendre un, mais elle ne voulait pas parce que c'était son tableau fétiche et qu'elle voulait le garder. Oui. C'est ça, Émilie, hein?
Oui, c'est ça. Il est exposé dans mon salon.
Voilà, exactement. Et elle a fait beaucoup d'escrime aussi.
Oh là là, ça c'est génial, ça. Quelque chose auquel je suis passée à côté, mais que j'aurais tellement aimé faire.
Et c'est pour ça qu'elle fait souvent mouche.
Qu'elle fait souvent mouche. Attends, Nicolas veut dire quelque chose, notre tech. Alors.
Moi aussi, j'ai fait de l'escrime.
Toi aussi, tu fais de l'escrime?
5 ans de l'escrime. J'avais fait du fleuret pendant 5 ans de ma vie.
Ah, ça doit être magnifique, ça.
Ouais, ouais.
Moi aussi, c'était du fleuret. Ouais.
Bon, ben voilà, moi, je fais comprendre. Là.
Et ça va, Nico? Tes genoux vont bien?
Très bien, mais là j'ai fait ça tout mon secondaire. Donc,
D'accord.
OK.
Et ça t'a pas donné le goût de chanter, d'avoir envie de chanter?
C'est plutôt pour mon propre plaisir. Là. Je veux dire, je pense pas monter sur scène puis chanter à moins qu'on en ait besoin dans une pièce de théâtre ou dans un film.
J'ai peur que si c'est avec Jamin, ce soit pas pour qu'on t'admire, mais plutôt pour qu'on en rit.
Oui, ouais.
Vaut mieux pas chanter avec moi, je chante comme une casserole.
Mais justement, on verrait toute la différence, c'est ça qui nous ferait rire.
Non.
Alors, au milieu de tout ça, vers quoi tu vogues? Est-ce que tu te laisses porter à chaque ouverture? Tu sais, quand on commence quelque chose, puis des fois, il y a une ouverture sur autre chose, puis tu es tentée parce que tu es curieuse et que tu as du talent. Ou tu as déjà une idée bien précise de là où tu veux aller? Tu veux continuer?
En fait, c'est sûr que, veux pas aussi, on peut pas ignorer qu'avec la pandémie
Oui,
actuelle,
ça c'est vrai.
les plans ont énormément changé. Fait
Ça,
que
c'est sûr.
c'est sûr, c'est ça. Fait que moi, au départ, je voulais vraiment me concentrer sur ma carrière de comédienne, bon, qui est bien modeste là, en ce moment, on va se dire.
T'es malheureusement pas la seule.
Ben oui, c'est ça. Il y a tellement de monde qui sont dans le même cas que
Oui.
moi. Puis qu'aussi, la pandémie, elle a beaucoup freiné certains mouvements, certains projets, tout ça. Donc,
Oui, tout à fait.
mais c'est ça, je pense qu'avec la pandémie, m'a permis de réfléchir à ce que j'ai envie de faire, de réfléchir à la direction que j'ai envie de prendre. Puis la réalisation m'a beaucoup intéressée dans les dernières années. Puis justement, c'est un art qui peut être fait autant sur un gros plateau avec 50 personnes que ça peut être fait en solitaire aussi, là. Moi, mon tout premier film qui relève plus de la vidéo d'art, mais je l'ai fait dans ma chambre avec ma fenêtre de chambre puis du papier d'origami, tu sais. Puis ça a été sélectionné dans deux
Ah oui,
festivals. Fait que
c'est
c'est,
super.
il y a tellement de possibilités, puis il y a tellement de liberté qu'on peut avoir avec ce médium-là que moi, j'ai accroché tout de suite, puis j'ai des amis qui m'ont beaucoup encadré, qui m'ont beaucoup poussé à le faire aussi.
Je trouve ça, c'est vrai que c'est génial la réalisation, puis ça peut se faire. C'est pas toujours avec un gros plateau. C'est vrai, je suis en train de réfléchir
Non, c'est
là-dessus.
ça. C'est ça, parce que ça prend une bonne idée, ça prend un minimum d'organisation, puis c'est parti,
De la
là.
patience,
Ouais. Oui,
non?
de la patience. Surtout si on veut le faire financer, là, ça c'est
C'est ça.
une autre partie de plaisir, comme on dit.
Il y a le financement, et puis il y a une fois que. Enfin, j'en sais rien, j'ai jamais réalisé. J'imagine qu'une fois que le bébé est fait, il faut aussi l'exporter, l'envoyer quelque part, lui donner la chance de vivre. Mais on en reparle dans un instant. On va faire une pause musicale, si tu veux bien. Et on se retrouve tout de suite après. Alors on va partir
Parfait.
avec Ellie Woods qui nous chante L'art de cacher son malheur.
Ces pensées qui m'écrasent sous ma chair mentale. C'est juste une phase et j'essaie de les faire taire. C'est l'heure de cacher son malheur aux autres. Les gens gardent le sourire sous ordonnance, le cerveau sur silence, y a plus rien qui les fait rire. C'est l'heure de cacher son malheur, l'heure de vivre de l'intérieur. Transporter ailleurs. Là,
Et voilà, alors Émilie, nous revenons avec toi et oui. On continue à parler de réalisation et de où ça nous amène. Et mm-hmm. en fait, là, tu étais quasi en train de nous dire que c'était ton coup de cœur du moment, ce sur quoi tu avais envie de t'affiner, de travailler plus, de faire des choses avec ça. Donc l'instant est propice pour ça aussi, il faut le dire.
Oui, oui, oui. Puis aussi, ben en fait, pour moi, c'est possible de faire les deux. On en a au Québec là, des artistes comme ça, comme Micheline Langlois
ben oui,
et Sophie Lorrain. Donc moi, c'est plus vers ça que j'ai envie de me diriger, en fait.
Et puis, tu dirigerais des artistes, ouais. des comédiens. T'arriverais même à diriger un mec que je connais et que tu connais aussi?
Peut-être, oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Vas-y, jamais on t'a coupé, vas-y, parle.
Non, c'est pas vrai,
pose ta question intelligente sur la réalisation, il n'en a qu'une, hein, il l'avait préparée.
Je peux me faire diriger par quelqu'un, que ce soit une,
ah oui,
homme ou une femme.
Ça, ils peuvent toujours essayer. T'écoutes ou t'écoutes pas, mais...
Non, j'écouterai, mais par contre, ça va aller dans les deux sens. C'est qu'après, j'écoute en création, quoi. Donc, non, il n'y a pas de trouble. Non, c'était dire... parce que là, c'est un de ses derniers projets, qui a été d'ailleurs filmé à la Comédie de Montréal, qui... vas-y, parle-nous de ce projet. Je n'ai pas le titre en tête.
Oui. En fait, c'est un court-métrage qui s'appelle L'Enchantement des murs.
Voilà.
Puis,
L'Enchantement des murs, c'est joli, ça?
Oui, merci. C'est que ça a été tourné dans le cadre du Kino Cabaret 2021, donc c'est l'été dernier.
D'accord.
C'est ça, donc c'est un court-métrage de 8 à 10 minutes, puis c'est l'histoire d'une femme dans la soixantaine qui est chez elle, qui est très seule, son conjoint est décédé, elle a un fils qu'elle n'arrive pas à rejoindre au téléphone et tout ça, donc on sent une certaine solitude qui l'apaise, puis elle découvre qu'il y a un trou dans son salon, soudainement. Puis elle décide de le laisser comme ça, faute de matériel pour le réparer. Puis pendant la nuit, elle s'est réveillée. Puis il y a la musique orchestrale, les noces de Figaro de Mozart qui commencent à jouer. Puis quand elle se rend au salon, elle s'aperçoit qu'il y a de la lumière qui passe à travers le trou. Puis quand elle regarde à l'intérieur, elle voit qu'il y a un chef d'orchestre qui vit dans le trou puis qui lui joue de la musique.
Donc, c'est beau, dis donc!
Oui.
C'est beau parce que j'ai des images qui me viennent en tête avec ça.
Ah, ben tant mieux!
Oui,
je trouvais ça très sympa. Et puis l'idée, la manière dont ça a été fait, donc après elle a fait tout le montage, puis ils sont venus donc. Vas-y, ouais. Donc vous êtes venus filmer.
Mais l'idée, c'est oui. dans le. Juste ce que vas-y. Je voulais dire, moi, c'est que dans ce moment d'époque où on essaye cruellement de nous faire manquer de liens, je trouve que c'est un joli. Une jolie histoire, c'est-à-dire que même si on se sent seul ou que l'on est seul, on peut toujours trouver, on trouvera peut-être pas ce qu'on connaissait déjà, mais on peut toujours arriver par un autre moyen à trouver autre chose. Enfin, c'est peut-être pas très clair, mais c'est ça que je ressens quand j'entends cette histoire.
Le lien est toujours là. C'est ça, c'est en plein ça, mais c'est vraiment une réflexion sur la solitude et sur la recherche du bonheur quand on est forcé d'être seul. Fait que ça, c'est sûr que ça... C'est, l'idée est née de directement de la pandémie. Tu sais, on a tellement passé de temps à la maison, puis je me disais, et si tout d'un coup on découvre quelque chose qu'on n'a pas vu chez soi? Tu sais? On est tellement longtemps chez soi que tout d'un coup qu'on découvre, je sais pas, une nouvelle porte, là.
Mais t'as raison, parce qu'en fait, habitué qu'on est à avoir ci et ça, on regarde plus autour de nous et en nous d'ailleurs, ce qu'on peut trouver ou ce qu'on peut créer. Et s'il y a ne serait-ce qu'un seul côté positif à cette chose, eh bien, ce serait celle-ci.
C'est ça.
Oui, vous avez raison. Oui, c'est en plein ça.
Voilà. Et donc, voilà, c'est comme ça que t'es venu, donc, cette idée. Et explique-moi un peu ce qu'est le Kino, parce que Arlette ne sait pas.
Non, je ne sais pas.
Vas-y.
Oui, Kino, en fait, c'est une organisation qui soutient puis encadre une communauté de créateurs de courts-métrages. Fait que ça, Kino, ça a commencé en 1999, puis c'est vraiment une opportunité de réseautage. Ils ont des classes de maître, des formations, ils prêtent de l'équipement, mais ça s'orchestre surtout en plusieurs événements. En fond, il y a des défis qui sont aussi des projections à chaque mois. Mais là, les projections sont évidemment pas en présentiel en ce moment, elles sont virtuelles. Il y a le Kino Cabaret qui est une fois par année. Ça, c'est en fond, c'est tout un thrill, là, comme on dit. Normalement, hors pandémie, on a 72 heures pour réaliser un film au complet, monter tout ça. Là, dans ce cas-ci, cette année, on avait une semaine où on avait une semaine qui était allouée à la création du court-métrage, mais on avait un peu plus longtemps pour faire la post-production. Kino organise aussi le cabaret Spasme. Ça, en fond, c'est un cabaret, encore là, une fois par année, pour les films de genre, donc tout ce qui est science-fiction, horreur. Mais vraiment, c'est une super organisation. Puis justement, avec des organisateurs en or, ils ont tellement travaillé fort cette année pour faire en sorte que les artistes aient la meilleure expérience possible malgré la pandémie. Ils sont vraiment exceptionnels. Oui.
C'est beau, ça, dans l'entraide.
C'est ça. Et en fait, c'est ça, c'est que d'après ce que m'expliquait Émilie, tu me coupes si je dis des erreurs, Émilie, c'est que voilà, ils mettent en commun, tu peux avoir un caméraman, un preneur de son, tu n'as pas forcément le matériel, et donc c'est une mise en commun de tout ça.
C'est de chacun des talents, chacun avec son talent. Et voilà.
Dans le cadre du Kino, et puis bah, ils se donnent des rendez-vous, tous se retrouvent, ils filment un truc, ils font le montage, et puis après ils le diffusent entre eux. Et là, en septembre, je crois que c'était, Émilie, la présentation de ton court-métrage, là ça s'était fait au Club Soda.
C'est ça, en octobre, oui.
C'était en octobre, c'est ça. D'accord. Et il y avait combien de réalisateurs de films présentés? De court-métrage?
Ah, bonne question. Je me souviens plus combien qu'on était.
Approximativement.
On devait être une bonne dizaine d'équipes par soir. C'est dans le fond, on était, je pense, 20. Je pense qu'au total, dans tout le Kino Cabaret, on était 20 équipes de réalisateurs, je crois.
C'est ça. Ce qui est pas mal. Ils avaient rempli le Club Soda. Donc là, malheureusement, il n'y avait que les équipes, parce que c'était limité, les places, etc.
Il y avait un peu de public quand même. Je pense que c'était un moment où on pouvait mettre un peu plus de gens en octobre là, dans les salles. Mais oui, c'est ça. Donc,
il a profité du moment très court où il y a eu une possibilité.
Ça s'est bien fait.
Émilie, on arrive pratiquement à la fin de cette entrevue. Juste te dire, je me doute que la réalisation, quand tu le fais maintenant, quand tu es comédienne, tu comprends un petit peu plus le réalisateur et tu es plus attentive à ce qui se passe dans l'autre sens.
Mais oui. Évidemment. Mais oui, aussi, un métier enrichit l'autre aussi.
Oui, voilà.
Parce que j'ai été comédienne puis j'ai observé sur les plateaux. Puis que j'ai été capable d'être réalisatrice. Puis là, maintenant que je suis réalisatrice, je suis pas mal ça va mieux se dérouler sur les plateaux.
Et bien, écoute, en tout cas, ça a été un grand plaisir de faire ta connaissance.
Merci. Tu vois,
malgré tout, il a quand même de bonnes relations. C'est pour ça que je le reçois régulièrement.
Et... Oui.
Donc, on se chicane beaucoup, Émilie. Tu as pu remarquer. Hein. C'est chien et chat, mais...
Non, mais je l'aime.
Oui.
Bon, alors merci beaucoup, on te souhaite bonne route en tout cas, bonne continuation et puis plein d'autres réalisations et bien sûr l'ouverture pour tout le monde, pour tous les théâtres et tout. Voilà. Merci beaucoup.
Croise les doigts pour toi.
On se quitte avec King Melrose qui nous chante Je.
Boum, c'est ça que ça fait dans ma tête. Après avoir trop fait la fête, c'est la fille d'hier qui me texte. Smiley face, say sex. J'ai jeté mon cœur à la mer pour le protéger de ma chair. Je suis un corps étranger dans ma propre vie, dans ma propre vie, complètement dérangé. Je flirte la folie, j'assouvis ses envies. Je me sens free.
qui désamorce la journée qui s'amorce. Un dieu retour à la terre, c'est comme un welcome en enfer. S'il vous plaît qu'on me donne des ailes, pareil que là où la vie est plus belle. Je suis un corps étranger dans ma propre vie, dans ma propre vie. Complètement dérangé, je flirte la folie, j'assouvis ses envies. Je me sens free.
Et maintenant, alors nous venons d'entendre Olivier Couture qui nous chantait La pluie. Et maintenant, c'est La pluie de paroles de Germain Stucki. Oh, comme je suis trop bonne.
Ah bon, déjà
hein? Non, pas après.
Ah
après,
oui, c'est ce que j'allais dire.
Je l'ai fait trop vite.
De nouveau, mesdames et messieurs, chaque lundi depuis la semaine dernière, nous avons Arlette qui part en live.
Mais j'ai mis ma feuille, ma deuxième feuille avant. Bon, allez, à tout de suite, restez avec nous. Germain Stucki dans un instant. Je voulais tellement faire un jeu de mots.
Vous écoutez Les Faramineux avec Arlette Farah.
J'ai embrassé la pluie qui s'éternise sur moi. Je la déverse à mon tour sous une lune sans amour qui n'attendait que ça. La roue ne s'arrêtera pas, votre ego s'étourdira. Nos esprits restent droits, on verra clair dans le brouillard. Car on prend et on redonne chaque fois. On s'effondre et on se lève, le vent nous souffle sa loi et nous force à rester droit. Je me suis détaché, la pluie glisse sur mon dos. Mon cœur est de plus en plus chaud. Je continue à marcher. J'ai mis ça derrière moi. J'ai choisi mes combats. Je ne cours plus après ma vie, car même mes pires ennemis, je les laisse venir vers moi. Malgré les intempéries, même s'il pleut à l'infini, mon esprit restera droit, je verrai clair dans les brouillards. Car on prend et on redonne chaque fois. On s'effondre et on se lève, le vent nous souffle sa loi et nous force à rester droit. Je me suis détaché, la pluie glisse sur mon dos. Carré de plus en plus chaud. Je continue à marcher, étanché, bien tissé. On sépare le vrai du faux. Quand on n'est plus à fleur de peau,
Alors maintenant, bon, moi, je vais la refaire pour ceux qui n'auraient pas entendu, qui n'auraient pas écouté, donc on vient d'entendre.
Qui n'était pas là.
Olivier Couture qui nous chantait La pluie. Et maintenant, voilà, on va entendre La pluie de mots de Jamin Shtouki.
Oh ouais, on va voir. Est-ce que c'est des bons mots, des mauvais mots?
Jamin, je n'en sais rien. Je suis chaque fois, je joue pour ceux qui connaissent un petit peu en France. Michel Drucker, parce qu'il est quand même venu relativement souvent au Québec, je joue mon Michel Drucker en disant « Je vous prie de m'excuser par avance de tout ce qui va être dit à partir de maintenant. »
De son impertinence.
Je ne suis pas responsable.
Oui, et donc, parodie politique, paradis politique, c'est le thème de ma chronique d'aujourd'hui. Alors vous savez qu'en ce moment, c'est le défi 28 jours. Tu sais, Arlette, qui consiste à ne pas boire d'alcool pendant 28
ah oui,
jours.
C'est vrai.
Tu vois ? Donc moi, j'y participe. Si, je tiens 28 minutes.
Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Une petite bière, on a soif. On a soif.
Voilà, c'était le grand Jojo, grand animateur des soirées alcoolisées belges. Et donc
et
ensuite,
autre.
Et autres. Ensuite, je vais dire que tout ce que j'écris est fait à jeun. Hein. Je n'utilise aucune substance hallucinogène.
Illicite.
Illicite ou licite d'ailleurs. Hein. Non, juste de l'alcool. Attention, hein. Je ne suis pas alcoolo, mais écolo. Oui, oui, je
vous
bois
pouvez
de
m'expliquer la différence, monsieur Shtouki?
Je bois de l'alcool pour économiser l'eau. Et quand on me demande si je suis pour ou contre le réchauffement climatique, je réponds, en hiver, je suis pour, en été, je suis contre. Alors, on va parler politique mondiale et québécoise, bien entendu, agrémentée de musique. Hein, vous avez vu d'un petit
oui.
intermède, comme vous avez pu remarquer. Comme j'ai dit, parodie politique.
Ça fait peur.
Paradis. Politique. Non, tu verras, certaines personnes vont découvrir des choses, d'accord. Alors, on va commencer par les pays de l'Est. Où est-ce que l'on s'en va, hein ? Est-ce que l'on s'en va vers une guerre en Ukraine ? Eh oui, je ne sais pas si tu suis d'information.
Oui, oui. Hein. Enfin, de loin, mais
L'OTAN,
j'en ai quand même entendu parler.
Voilà, l'OTAN contre la Russie. Depuis des mois, Vladimir Poutine, le président de la Russie, ancien membre du KGB, nostalgique de l'Union soviétique, etc., masse des troupes militaires à sa frontière avec l'Ukraine, un pays limitrophe à sa frontière. Car l'Ukraine veut intégrer l'OTAN, qui est le bras armé de l'Europe et des Américains. Et ça, Poutine ne peut pas le tolérer. Pas un pays frontalier avec la mère patrie. Donc, il sort des biceps pour le faire savoir, car on ne l'écoute pas quand il demande. Alors certes, il ne faut pas obéir à Poutine, mais il serait bien de l'entendre et de négocier avec lui avant un rapport de force militaire. Parce que n'oublions pas que c'est la deuxième puissance militaire mondiale. Je savais que ça allait te faire plaisir, ça, Arlette.
J'étais en train de danser.
Maintenant, nous allons en France, car ce sont bientôt les élections présidentielles.
Eh oui.
Et c'est déjà le bordel.
Ah bon ? Étonnant.
Oui. Tout le monde voyait Macron, le président actuel, et Marine Le Pen au deuxième tour. Mais ce n'est plus vrai maintenant. Et non. Alors... La gauche, Parti Socialiste, Parti Communiste, Mélenchon
la
et les autres, etc., est éclatée, divisée, inexistante. Donc, elle ne compte pas. La droite essaye de remonter dans les sondages et les intentions de vote, mais c'est compliqué quand on ne sait pas quelle est sa ligne de conduite et son programme. Hein. Et voilà qu'apparaît un trublion venu de nulle part, un troll, Éric Zemmour.
Oh là.
Un petit juif raciste, fasciste, on ne sait pas trop, hein. Qui vient tout chambouler et qui pourrait créer une surprise.
Ah non.
Ah, pauvre France.
France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Ça t'a fait plaisir, ça aussi, hein. Un petit Charles Trenet. Ça rappelle ton enfance. Et maintenant, ben, nous allons aller chez les voisins de la France, enfin chez nos voisins, pardon, excusez-moi, chez nos voisins, Joe Biden, vous savez, le président transparent, si transparent que... Si, il est transparent, car il est tellement vide qu'on voit à travers. Et ben du coup, ben, comme il est transparent, il n'y a rien à en dire. Autant Trump faisait chier tout le monde, autant Biden laisse tout le monde indifférent. Si vous pouviez savoir, Arlette revit dans le studio.
Ah, pas pour Joe Biden, mais parce que j'adore Balavoine.
Voilà. Tu connaissais Nico ? Non ? Bon, tu vas en découvrir d'autres. Et maintenant, ben, partons en Angleterre. Pardon, le Royaume-Uni. Plus si uni que cela, d'ailleurs.
C'est vrai.
Parce que ça sent le brûler pour Bojo. Bojo, le premier ministre Boris Johnson. Je l'adore. Pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fait. Moi, je l'ai surnommé la gaffe. Oui. Après une gestion calamiteuse de la première vague du Covid, après avoir décidé unilatéralement de garder les doses de vaccins pour lui au lieu de les livrer et respecter les contrats signés avec les pays européens qui attendaient ces vaccins pour faire face au Covid, après le scandale de la rénovation faramineuse aux frais du contribuable britannique de son appartement, après sa négociation catastrophique avec les Européens du Brexit, après sa décision imbécile pouvant créer un incident diplomatique avec la France, d'envoyer la Navy, la Royal Navy, pour refouler les migrants en canot dans la Manche. Imagine, ils envoient des bateaux militaires pour faire partir des petits canots. Après avoir envoyé son conseiller et ami comme un malpropre du jour au lendemain et qui maintenant se venge en révélant chaque semaine des secrets qui mettent Bojo dans la marde. Après le Partygate, où il a fait la fête avec plusieurs dizaines de collaborateurs en plein confinement strict quand les Anglais étaient enfermés seuls chez eux, et j'en passe, car on n'a pas le temps tellement il a fait de conneries, eh ben je me demande comment ça se fait qu'il est toujours Premier ministre. En fait, ce gars, c'est Houdini. Un spécimen avec un tel taux de reproduction de conneries, il devrait être confiné.
C'est
oui, c'est la gaffe.
Oui.
C'est un humoriste qui a sorti une chanson qui a eu un énorme succès dans les années 90.
Oui, oui, oui.
Et nous en arrivons au Québec. Legault est à nouveau apparu en conférence de presse jeudi dernier. Il apparaît plus que les artistes. Il est présent dans tous les médias, ce qui ne fait pas de lui un intellectuel, mais comme tous les théâtres et salles de spectacle du Québec sont fermés, eh ben il est le seul comique québécois en spectacle à pouvoir s'exprimer. D'ailleurs, s'il était animateur météo, ce serait le gris tout le temps.
J'aurais voulu être un artiste. J'aurais voulu être un acteur pour tous les jours changer de pont et pour pouvoir me trouver bon sur un grand écran en couleur.
Et oui, il a donc de nouveau parlé pour ne rien dire. Parce qu'on attend toujours les idées de Legault pour la suite, hein. Mais ça prend du temps. Car quand il a deux idées dans la même journée, hein, si, ça lui arrive, elles se battent, se font la guerre, et il réfléchit pour savoir laquelle est une mauvaise idée et laquelle est une idée à la con. Mais comme il est pacifiste, pour ne pas avoir de conflit, pendant des mois, il n'a eu aucune idée. C'est pour cela que Legault a dépensé plus de 600 millions de dollars en sondage. Vous savez ça?
Ah non, ah, voilà. C'est vrai?
Oui, oui. Pour connaître sa popularité et savoir comment prendre ses décisions. C'est ces décisions d'ailleurs qui nous laissent toujours dans la marde. Hein. Mais ces 600 millions de dollars auraient été plus utiles dans notre système de santé que dans la poche des sondeurs de Legault. Hein? L'Ontario, voilà. Oui, c'est ça. Donc moi, je trouve que voilà. L'Ontario donne de la prévisibilité, annonce des réouvertures. Legault, lui, reste la tête dans le sable. Pourtant, il n'a pas arrêté de dire « je vois la lumière au bout du tunnel ». Depuis 22 mois, il voit la lumière au bout du tunnel. Pour quelqu'un qui prône un Québec laïque et qui défend la laïcité, je le trouve très religieux, moi. Mais là, jeudi dernier, il ne voyait plus qu'une étincelle au bout du tunnel. À mon avis, il a commencé à perdre la foi.
J'étais assis sur une pierre. Des larmes coulaient sur mon visage. Je ne savais plus comment faire pour trouver en moi le courage. J'ai levé les yeux au ciel et là, j'ai vu la lumière. J'y ai béni mon âme.
Dieu me donnait la foi, depuis le fond de moi. J'ai dans le cœur parce qu'il guide mes pas. Dieu me donnait la foi, à qui je ne sais quoi. J'ai dans le cœur parce qu'il guide mes pas.
Et donc, les gens en ont marre, ils sont à bout. Ils commencent de moins en moins à adhérer aux recommandations. Normal, au bout de 22 mois de « je dis, vous obéissez et vous allez retrouver des libertés », force est de constater qu'on a tous, je dis tous, fait ce qu'ils nous demandaient, sans discuter, et on n'a eu que le bâton pour se faire battre. Malheureusement, on n'a pas eu les libertés promises. Les commerçants râlent aussi. Confinés ou fermés pendant 14 mois sur 22.
Les petits commerçants.
Oui, mais confinés, les grands aussi. Je veux dire, la merde, elle est pour tout le monde à ce niveau-là. La rébellion gronde. Car leur commerce, eh ben, c'est leur bébé, leur enfant. Et ils le voient sombrer et disparaître. En tous les cas, ça fait un succès dans le studio. Et donc, déjà, une pâtissière du Saguenay a ouvert jeudi et vendredi dernier, malgré l'interdiction. Tu es au courant de ça, Arlette ?
Non, j'ai pas dit.
Elle a ouvert pendant 2 jours. Elle a été dénoncée par la santé publique à la police, qui est donc venue la contrôler, a fait sortir les gens qui étaient dans sa salle à manger, hein, alors qu'elle respectait le code QR, le masque, etc. Oui. Et la question, je cite la pâtissière, n'avez-vous pas peur des amendes que cela peut engendrer ? Eh bien, cette pâtissière répond, je ne vais pas attendre que mon commerce coule tout seul. Si mon entreprise doit couler, ce sera moi qui la ferai couler, pas Legault. Et elle ajoute, au lieu d'être le papa des Québécois, qu'il soit déjà un bon petit-fils pour ses aînés, qu'il s'en occupe correctement. Et quand j'aurai besoin d'un papa, que j'ai déjà d'ailleurs, je ne ferai pas appel à lui. Ouch, c'est virulent là. Hein. Et ce sont ces mots, je ne fais que les reprendre. Mais avec toutes ces fermetures de commerces, de restaurants, de salles de spectacle, qui sont les lieux les plus sécuritaires, pour preuve, quasi aucune éclosion dans ces endroits.
Hein. C'est pas quasi, c'est aucune. Oui. Il n'y a rien eu là-dessus.
Depuis le début, on nous dit que les éclosions sont dans les écoles et les milieux de travail. On ferme les salles de spectacle et le sport. Attends. Tu me dis que c'est A et B le problème, et tu fermes C et D. Je rappelle que Legault est comptable de métier. Hein. Donc, à mon avis, un très mauvais comptable. Hein. Legault, qui se dit le premier ministre le plus populaire. Et c'est vrai que l'autre premier ministre, Justin, l'est moins. Hein. Mais il fait mieux la job. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans les médias, il fait sa job. Car c'est lui qui aide tout le Canada, dont le Québec, pas Legault. Bref. Legault vient de féliciter le nouveau General Manager du Canadien pour sa nomination. Voilà, si tu ne le savais pas, je te l'annonce. Hein, parce qu'effectivement, d'accord, après le Covid, la deuxième chose la plus importante au Québec, c'est le Canadien de Montréal. D'accord ? Et voici un extrait de leur conversation. Legault, vous avez tout un défi devant vous. Hein, parce que ça ne peut pas aller plus mal que ça, votre affaire. Votre équipe, elle est 32e sur 32. Et le nouveau général manager de lui répond « Oui, I know. Vous savez, vous avez tout un défi devant vous aussi, Prime Minister. Votre système hospitalier est rendu à un niveau de délestage 5 sur 4. Au moins, nous, on n'est pas 33e sur 32. Le go. Vous vous donnez combien de temps pour replacer le Canadien? 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Le General Manager. Vous vous donnez combien de temps pour replacer le système de santé? 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Ah, le go. Pas évident. Ça doit faire au moins 25 ans que ça va pas bien. General Manager. Le CH aussi. Premier ministre. Si je peux me permettre, vous devriez repêcher plus de Québécois. Le manager. Si je peux me permettre, Legault, vous devriez repêcher plus de travailleurs étrangers. Le ministre. Vous savez, Mr. Hughes, nos deux jobs se ressemblent. Tous les Québécois pensent qu'ils seraient meilleurs que nous s'ils étaient à notre place. Le manager. Ben, justement, j'ai deux faveurs à vous demander. The first one, avec tous les cas de COVID-19 dans le team, on manque de tests rapides. En avez-vous? Legault. Mon pauvre ami, les tests rapides, c'est comme les joueurs rapides, c'est backorder. Le manager. Et le deuxième faveur. Le Canadien revient jouer au Centre Bell jeudi. Ce serait bien que l'aréna soit remplie de spectateurs comme à Boston. Le go. Vous savez, c'est pas moi qui décide. C'est le directeur de la santé publique. Le manager. Bon, good luck avec la pandémie, Mr. Le go. Bonne chance avec la léthargie, Mr. Hughes. Tout le monde, d'une façon ou d'une autre, a dû se réinventer. À présent, c'est au gouvernement de se réinventer. Réinventer la manière dont il gère cette crise. Parce que j'en suis au point à me poser une question existentielle. Oui, existentielle. Au Québec, qu'est-ce qui finira en premier? La pandémie ou les feux de l'amour? Alors, pour terminer, voici une petite chanson parodie spéciale pandémie. Le groupe... Ben, je vous laisserai écouter bien les paroles parce que c'est très drôle. Le groupe s'appelle Les Enrhumés.
Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni de tousser ni d'avoir froid. La goutte au nez, plus d'odorat. Je pense à toi, mais je te sens pas. Et tous ces tests PCR, toutes ces narines foutues en l'air.
Une place à table. Il a éternué, maintenant il mange à l'étable.
Tout le monde favorise le vaccin, même les maisons closes. Et bientôt on nous parlera de la 20e dose.
J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir. Mais pour vous dire, ça fout les boules pour l'avenir.
C'est pas vraiment ma faute si tout le monde flippe pour un rien.
T'as un chat dans la gorge en public. Miaou, t'es pas bien.
Ta la ta 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 ta.
Pour sombrer dans l'ennui.
Et de notre misère, on fera l'inventaire. Ensemble, on va la voir, cette maudite pandémie.
Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni de tousser, ni d'avoir froid. Un boutonnier, plus d'odorat. Je pense à toi, mais je te sens pas. Et tous ces tests PCR, ces narines foutues en l'air.
Yeah.
C'était donc les enrhumés.
Ils aient ce groupe, ils viennent d'où?
En fait, ce sont des humoristes et des personnalités, c'est suisse du côté de Neuchâtel.
D'accord.
Qui ont fait cette parodie, ils en ont plusieurs à leur actif. Et voilà, moi j'ai trouvé ça très très drôle, très à propos.
C'est passé sur Facebook, des choses comme ça?
Ouais, c'est ça, sur Facebook, exactement, des trucs que je suis. En plus avec le froid, avec les itinérants qui meurent, tout ça. Donc c'est une parodie, c'est les restos du cul, c'est les restos du cœur, pardon. Ma langue a fourché. Oui, c'est parce que je fais un spectacle où on fait une parodie et c'est les restos du cul, c'est pour ça.
Non, oh
c'est
bah les bravo, c'est les restos la chanson du des restos du cœur.
De, entre autres Coluche, c'était
Jean-Jacques
Goldman. Les cinq premiers, c'était qui? C'était Coluche, Jean-Jacques Goldman, Yves Montand, Alain Delon et Johnny Hallyday. Souviens-toi, c'était les cinq premiers. Ah oui, on a oublié tout ça, les années 80.
Yves Montand?
Et oui, le premier qui en faisait partie, c'était Alain Delon, oui. C'était ces cinq premiers-là. Et puis après, d'accord, ça a été repris, etc. Et donc, c'était pour permettre aux gens de récolter donc, de la nourriture.
Des fonds,
c'était
de la nourriture,
des dons,
oui.
Pour donner aux gens qui n'en avaient pas, surtout en période d'hiver. Donc, j'explique ça pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaissaient pas. Et ça, c'était la chanson qui a été écrite. Et à chaque fois, ils font des...
C'est connu quand même. Même loin, même en dehors, pas forcément.
C'est pour ça. J'en ai parlé, c'est pour ça que je fais. Et donc, c'est cette parodie que je trouvais vraiment très drôle.
Oui, elle est très, très, très drôle. Bah, écoute, on arrive en fin de cette émission, mais c'est vraiment très sympa d'avoir fait ça. J'ai beaucoup aimé les petits extraits musicaux que tu as trouvés pour agrémenter ta chronique, mon
impertinence. Et donc... voilà. Balavoine, je te sentais bien.
Tu connais pas Balavoine, Nicolas?
Non.
Je vais faire ton éducation là-dessus, je vais m'en charger parce que ça, Balavoine, c'est un super chanteur. Et puis ça, c'est tout un grand moment de ma vie. Donc, je vais te parler.
C'est dans les années 80, un peu rocker français, très impertinent aussi, très rebelle. Qui malheureusement nous a quittés suite à un accident d'hélicoptère pendant le Paris-Dakar. Il est parti trop tôt.
Pour aller trouver de l'eau
dans le désert. Voilà. C'est une course de Paris-Dakar dans le Sahara. Il nous a laissé de très très belles chansons. Ouais. Pas assez connu jusqu'ici. C'est pour ça que je voulais un petit peu. Mais va voir, tu vas bien kiffer, comme on dit.
Oui, c'est un type extraordinaire. Bon, enfin, bref.
Voilà.
De toute façon,
le Paris-Dakar qui n'est plus le Paris-Dakar maintenant puisqu'il se fait en Arabie Saoudite.
Oui, vrai aussi. Mais il était connu parce que, enfin, quand même, il est connu comme Johnny Rockefeller. Johnny. Alors.
Oui, t'as fumé, tu voulais dire Hallyday.
Non. Il est connu ici pour tout ce qu'il a fait. On le connaît quand même. Lui, il ne le connaît pas, Nicolas, parce qu'il est tout jeune. Et que son éducation musicale n'a pas été jusque-là.
Non, pas forcément. Vous
assistez à cette dispute, je peux vous dire que moi, je me donne un petit mois, mais au mois de mars, il va tout connaître, Nicolas.
Bah oui, et puis il va adorer. C'est super. Oui,
voilà.
Comme ça.
Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bah, d'abord, on doit dire merci à Émilie Sigouin.
Oui.
Émilie qui est venue parce qu'elle te connaissait, qui pensait que l'émission allait être extrêmement claire et intéressante pour elle avec des questions bien précises, et elle est tombée sur nous deux et elle a tenu le coup. Elle a répondu fort.
Non, mais je savais que c'est une fille qui a du caractère, qui est solide.
Fort gentiment.
Parce que je crois qu'elle nous écoute encore, démonter. On peut la remercier. Non, elle m'a envoyé un petit message, elle a adoré ça. Donc tu peux la réinviter quand tu veux, elle reviendra.
D'accord. Bon, alors ça va. S'il y en a qui sont assez fous pour ça, on prend. Ça veut dire quoi, Nicolas, qu'il ne reste plus qu'une minute et qu'il faut qu'on dise au revoir. Donc il faut que je remercie aussi Jamin Jtouki. Merci beaucoup, c'était excellent ce que tu as fait. Merci, Nicolas. Nicolas Wartmann, merci beaucoup. Merci à vous toutes et vous tous. Et puis,
oui,
j'espère
Nico
qu'on se retrouve demain annoncé. Malgré la folie d'aujourd'hui. Oh, allez, demain sera une autre émission.
Ah, ça c'est
aussi
autre chose.
Sérieuse.
Merci,
demain.
Bye bye.
Au revoir.